Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série, c'est-à-dire l'importance de la prière. Nous arrivons à l'étude numéro 11 et le titre aujourd'hui sera « Quelques difficultés mentales dans la prière ». Chers amis, nous nous sommes arrêtés sur les cinq phases de la prière, c'est-à-dire la communion, la soumission, la requête, la coopération et le conflit. Nous aimerions maintenant voir quelques-unes des problèmes qui sont liés à la prière. Comme nous l'avons dit, il nous arrive très souvent d'avoir au fond de notre pensée un sentiment indéfini de contradiction ou d'incertitude qui a évidemment pour effet d'arrêter ou de même paralyser la prière. Nous sommes quelquefois arrêtés dans la prière par certaines difficultés mentales que nous n'avons jamais analysées ni défini très sérieusement. Notre but est donc de chercher à définir ici quelques-unes de ces questions, à les analyser et à les détruire. Et tout cela afin que notre prière puisse s'élever à Dieu dans la certitude de la toute confiance. Et à cet égard, l'une des premières difficultés dans la prière se rencontre en relation avec la volonté de Dieu. C'est naturellement une sphère de contemplation et de considération très vaste, et elle renferme un très grand nombre de phases, également un nombre d'aspects et de points très différents, mais nous chercherons à les résumer et nous verrons dans ce qui sera dit que nous touchons vraiment à beaucoup plus de choses que on pense à prime abord. Voyez-vous, quant à la volonté de Dieu, la question fondamentale me paraît être: est-elle absolue ou est-elle relative? La question qui est devant nous maintenant est de savoir si pour nous la volonté de Dieu est absolue ou relative. Si nous l'exprimons ainsi, eh bien nous ne serons pas aidés beaucoup. Cela semble très académique, mais nous expliquerons notre pensée. Dieu permet-il certaines choses parce qu'elles sont sa volonté absolue ou parce qu'il veut nous faire entrer par la prière dans une certaine position? Dans ce dernier cas, la volonté de Dieu est relative et non absolue, c'est-à-dire ce que nous traversons ne représente pas ce qui est absolument la volonté de Dieu, mais il le permet dans un autre but, et par conséquent, cela représente la volonté relative de Dieu. Pardon. Nous avons maintenant notre fondation et notre base pour considérer de manière très vaste la volonté de Dieu en relation avec la prière. Le résultat sera celui-ci. Si nous sommes en présence de la volonté relative de Dieu, alors les choses au sujet desquelles nous prions lorsqu'elles auront accompli leur but, cesseront d'être et d'avoir une place dans la volonté de Dieu, ou bien, si Dieu permet qu'elles subsistent, alors nous aurons pris une place descendance, plutôt d'ascendance, excusez-moi, sur elles. Je répète parce que j'ai fait une faute dans la prononciation. Ce n'est pas une excuse parce que je suis de langue allemande qu'on doit faire des erreurs. Il n'y a pas d'excuse là-dedans. On doit être concentré quand on parle de la parole de Dieu. Donc, je reprends. Le résultat sera celui-ci. Par exemple, si nous sommes en présence de la volonté relative de Dieu, les choses au sujet desquelles nous prions, lorsqu'elles auront accompli leur but, cesseront d'être et d'avoir une place dans la volonté de Dieu, ou bien, si Dieu permet qu'elles subsistent, alors nous aurons pris une place d'ascendance sur elles et elles deviendront nos servantes. Cela non parce que Dieu, dans la plénitude de sa volonté et de son dessein, veut qu'elles demeurent, mais il les y maintient parce qu'elles sont absolument nécessaires pour nous garder dans une certaine position. Donc si nous étions des créatures parfaites, la volonté de Dieu serait toujours absolue, bien entendu. Il n'y aurait aucune place pour la volonté relative de Dieu, mais nous ne sommes pas parfaits. Il ne lui serait donc pas nécessaire de permettre certaines choses pour nous élever à de nouvelles positions. Mais comme je le répète, nous sommes des créatures imparfaites, malheureusement. Nous sommes des créatures déchues. Alors la volonté de Dieu pour nous est plus souvent relative que absolue. Le problème s'élève donc pour nous dans cette ligne de la soumission et de l'importunité. Ces deux attitudes semblent être antagonistes l'une à l'autre et peuvent représenter un conflit ou une contradiction. Comment pouvons-nous réconcilier l'importunité avec la soumission? Eh bien, l'importunité ne met-elle pas de côté la soumission? La soumission ne met-elle pas de côté l'importunité? Ces positions semblent donc être opposées l'une à l'autre. Il n'en est cependant pas ainsi. C'est un problème qui se rencontre dans la prière. Continuez à frapper à la porte. Continuer à appeler et connaître cependant la soumission. La soumission, elle n'enlève pas la force insistante des coups que nous frappons à la porte. La force de notre appel n'implique-t-elle pas que nous n'avons pas appris la soumission? Nous pouvons ne pas toujours définir cette pensée de cette manière-là, mais elle est tenace, elle reste à la base de notre intercession et très souvent, elle tend à en enlever la certitude positive et définitive, de sorte que nous ne savons plus du tout ou pas tellement où nous en sommes. Oui. Tout cela est un problème et il nous faut donc régler ce problème aussi définitivement que possible. et je pense que la solution de ce problème consiste à en reconnaître l'élément moral tout en comprenant que Dieu veille sur les éléments et sur les questions moraux. Il y a donc en nous ce qui doit être surmonté ou vaincu, et cela signifie que dans la volonté relative de Dieu, il y a beaucoup de choses qui ne sont que permises ou même qui sont envoyées par le Seigneur dans le dessein ou avec le but de triompher de certaines choses en nous ou de nous amener à surmonter ou à traverser certaines choses parce que des facteurs moraux sont en vue. Nous employons ce mot « moral » maintenant dans son sens le plus vaste, non pas dans un sens étroit. Il nous faut donc reconnaître que la nouvelle création est une question morale et elle n'est pas complète en ce qui nous concerne. Elle est parfaite et complète en elle-même, mais elle ne l'est pas en nous. La vieille création existe encore. Et oui, elle est objective et extérieure à la nouvelle. Elle a une grande influence qu'elle exerce sur la nouvelle. Donc, le péché n'est pas éteint pour le croyant. Le monde n'est pas éteint pour le croyant, car il exerce encore son influence sur le croyant. Et le diable n'est pas éteint pour le croyant. Il n'est pas nécessaire de rappeler cela. Mais tout au centre de la vieille création, là se trouve la nouvelle qui est une question morale. Cependant, nous pouvons dire une question morale dans son enfance et tous ces éléments et ces facteurs moraux doivent donc être développés pour faire de nous des créatures morales, c'est-à-dire dans le sens entier du mot, et c'est-à-dire des créatures qui sont responsables, des créatures ayant une conscience nouvelle, ayant une mesure nouvelle de valeur, une nouvelle connaissance des principes. Un monde céleste entièrement nouveau est entré en nous et nous devons arriver à en posséder la connaissance de la sagesse de manière intelligente. Ces secrets doivent nous être connus, ces vertus doivent être incrustées en nous. Le Seigneur n'a pas fait de nous, par la régénération, de simples automates, des robots, des machines, qui doivent agir malgré notre volonté, malgré nos sentiments, nos désirs, notre raison, notre intelligence, et qui doivent être portés ici et là, faisant et obligés de faire des choses malgré nous-mêmes. Cela donc est entièrement contraire aux Saintes Écritures. Mais le Seigneur a fait de nous des créatures morales, constituées selon une nouvelle moralité, un nouveau système céleste, une intelligence entièrement nouvelle, qui ne sont pas de l'homme naturel, un système de jugement de valeur et d'appréciation entièrement nouveau, et tout en nous maintenant doit donc nous être donné du Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur nous fera comprendre sa volonté et il nous demandera de nous exercer en relation avec la pensée, la conscience, la conviction et les demandes de la nouvelle création qui est en nous. Et c'est ainsi que la nouvelle création est une chose morale. Mais comme la vieille création l'entoure et l'enveloppe encore, eh bien la nouvelle création grandira par la conquête et elle grandira par le conflit. Ainsi, elle grandira aussi par l'effort intense qu'elle fait pour triompher par une application soumise, triomphante, délibérée, ardente, consacrée et persistante. Donc, la volonté renouvelée, cette volonté qui est fortifiée par le Saint-Esprit, elle n'agira donc pas de façon mécanique, on a compris, mais elle sera appelée à s'exercer dans le Seigneur. Donc, prier dans la volonté de Dieu ne signifie pas que le Saint-Esprit vient se saisir de notre volonté, de notre vouloir, pour nous obliger à parler sans notre intelligence. Non, non, non. Ça, ce serait un domaine entièrement faux. Il arrive aujourd'hui très souvent que l'intelligence de l'homme soit mise de côté parce qu'on lui dit qu'il faut faire cela et qu'il commence à s'égarer dans toutes sortes de choses que ni lui ni personne ne saurait comprendre. Mais ce n'est pas ça la nouvelle création. Le Saint-Esprit n'arrive pas et il n'arrête surtout jamais l'intelligence. Je répète, le Saint-Esprit n'arrêtera jamais l'intelligence et la compréhension de ceux qu'il appelle à la prière. Mais il nous appelle, écoutez bien, à exercer notre intelligence. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, « Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. » C'est ce qu'a dit l'apôtre. Et la prière dans le Saint-Esprit, cela ne signifie pas que nous nous abandonnons à l'esprit de manière à perdre totalement notre vie morale en employant de nouveau le mot dans son sens le plus large. Nous voyons donc que les questions morales ont une valeur prééminente dans la pensée du Seigneur en ce qui nous concerne. Alors la prière, elle devient une éducation et une instruction. L'éducation et l'instruction, ce sont deux choses absolument différentes. L'instruction a pour but de nous donner une connaissance. L'éducation, elle est liée à la valeur morale dans son expression pratique. Souvenons-nous de cette définition. Elle est importante. Donc, si nous parlons d'une personne instruite, nous voulons dire qu'elle connaît beaucoup de choses. Si nous parlons d'une personne bien élevée ou éduquée, nous pensons qu'elle a une très grande valeur dans les choses pratiques. Nous sommes donc entraînés dans la prière et le Seigneur veille, il veille à ce que nous soyons entraînés, retenus dans la prière, et le fait que nous sommes entraînés et retenus par le Seigneur. Tout cela est donné entièrement et signifie que d'un côté, nous apprenons des choses absolument nouvelles, nous entrons dans des secrets, nous entrons dans une nouvelle connaissance, et ensuite, de l'autre côté, cela a pour effet de nous élever, en effet, et de nous amener dans une position morale, sur un nouveau, on peut dire un niveau surtout, qui se rend moral et beaucoup plus haut. Nous verrons donc tout à l'heure ce que cela signifie. Voyez-vous, les personnes qui ne prient pas seront à la fois ignorantes et faibles, sans instruction et sans éducation véritable. Elles ne sauront donc pas et ne pourront pas agir selon la pensée de Dieu. Donc, il nous faut reconnaître ensuite que la prière n'est pas simplement un avantage spirituel, mais qu'elle consiste à poursuivre une campagne. Il y a donc un plan divin des choses dans lesquelles il nous faut entrer. La prière n'a pas seulement une valeur personnelle et subjective, elle est objective, elle est collective et relative, même dans les valeurs morales qui résultent de la prière individuel. Nous chercherons donc maintenant à résumer un peu ces grandes questions qui semblent difficiles. Il y a trois aspects à la prière importune. Mais comprenons-nous pourquoi l'importunité est demandée? Pourquoi elle est nécessaire est justifié? Et voyons-nous qu'il n'y a aucune contradiction entre la soumission et l'importunité? Parce que, voyez-vous, la soumission, comme nous l'avons montré déjà, est une attitude active, positive et non pas possible, non pas passive. Je dis donc, elle n'est absolument pas passive, car elle consiste à entrer en accord avec la volonté divine, et l'importunité suivra donc pour le développement des traits moraux. Les trois aspects de la prière importune sont donc, premièrement, l'aspect moral. Et le facteur moral a deux aspects qui lui sont propres. Nous avons parlé des ingrédients de l'encens qui doit être offert sur l'autel d'or, et ces ingrédients représentent les vertus morales de Christ. Celles-ci doivent donc être, d'un côté, saisies et appropriées par la foi. C'est l'un des aspects du côté moral de la prière importune. La foi délibérément, avec persistance, cette foi saisit et s'approprie les vertus morales et les gloires du Seigneur Jésus-Christ. C'est donc absolument un exercice. Il représente d'un côté le refus de l'assaut de ces arguments soulevés par notre moi naturel et qui décourage la prière. Lorsque nous entrons en la présence de notre Seigneur, eh bien, nous devons certainement le faire dans le sens de notre propre intelligence et indignité, de notre néant, ainsi que de notre faiblesse, mais, ce n'est pas la base de notre requête. Cela devrait être reconnu. Et cependant, la prière positive, je dis bien la prière efficace, est entravée, arrêtée, affaiblie très souvent par une obsession persistante de notre propre péché. Oui, de mon propre péché, de notre faiblesse, de notre impuissance, et il nous est demandé de nous saisir positivement des vertus et des valeurs morales de Christ, ainsi de nous en saisir des deux mains pour nous approcher de Dieu. L'ennemi, bien entendu, nous assaillera de convictions de péché, de condamnation et d'accusation en la présence de Dieu, mais nous avons à nous saisir des deux mains des valeurs du Seigneur Jésus, ayant, avant de l'avoir fait, eh bien, nous ne saurions nous approcher du trône, car nous ne pouvons approcher le trône sans ces valeurs-là. Nous devons donc, en quelque sorte, opposer un refus délibéré à toutes ces accusations. Nous connaissons certains croyants dont la vie de prière est devenue une chose lointaine, presque impossible, car dès qu'ils se retirent pour la prière, ils éprouvent un tel assaut d'introspection et d'analyse personnelle et de conscience d'eux-mêmes, de tout ce qui est mal en eux, qu'ils ne peuvent jamais arriver à une attitude positive. Il est donc, on le comprend, nécessaire d'un côté d'avoir l'exercice de la foi, d'avoir la persistance de la foi pour nous approprier ces ingrédients, pour nous approprier ces valeurs et ces vertus du Seigneur Jésus pour entrer en la présence de Dieu. Il y a ensuite l'autre aspect du facteur moral, ces valeurs et ces vertus doivent donc être formées dans notre propre âme, tout cela par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, en la présence de Dieu, nous représente, oui, il nous représente comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il est plus que cela encore. Il est l'homme duquel tous les membres de la nouvelle création en Christ doivent prendre le caractère et toutes ses vertus et ses valeurs d'homme parfait. L'homme devenu parfait doivent donc être donnés à tous ses membres, de sorte que son caractère puisse devenir le leur, tout simplement, et qu'ils soient eux-mêmes dans leur propre âme, qu'ils soient eux-mêmes participants de sa nature. Alors ces vertus de Christ sont des vertus éprouvées, ce sont des vertus triomphantes, et elles sont désormais des vertus énergiques et non seulement passives, plus, elles sont plus passives. Le Seigneur Jésus, je dis cela avec un profond respect, n'a pas été placé dans un musée comme modèle. Le modèle suprême que nous devons regarder, que nous devons admirer, mais il y a en lui une puissance et une réalité vivante, car il vit. Il n'est pas un modèle, ni une statue. Non, non, non. Il est un Christ vivant qui se donne et qui nous est apporté par le Saint-Esprit à nous, ses membres. Il nous est apporté à nous qui sommes, on l'a bien compris maintenant, ses membres. Et sa foi n'a pas simplement été finie devenu parfait et poli, comme quelque chose qui nous, ou que nous devons contempler comme un beau modèle. Non, non, non. C'est une foi par laquelle nous devons vivre maintenant. Nous devons vivre maintenant par sa foi. Et sa patience a le même caractère. Nous sommes appelés à être disciples et participants de la patience de Jésus-Christ. Et bien des passages des Saintes Écritures jailliront ici dans notre pensée. Nous ne faisons que les mentionner. Ajoutez à votre foi. Et ce sont donc les vertus de Christ qui nous sont ainsi ajoutées. Nous sommes donc appelés, nous dit l'apôtre, à être participants de Christ maintenant. Ainsi, sa foi, sa patience, sa consécration, son obéissance, ainsi que ses souffrances, son amour, doivent être tous éprouvés, appris et formés en nous et sont donc triomphants, mais non pas comme en dehors de nous, mais en relation avec nous. Nous avons été donc mis en possession des plus précieuses et des plus grandes promesses afin que par leurs moyens, nous puissions devenir participants de la nature divine, pour que nous puissions parvenir, je le répète, participants de la nature divine, selon la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4. C'est l'aspect moral et de la prière importune. Ce sont les vertus et les valeurs morales de Christ qui sont maintenant formées en nous. Et lorsque l'importunité représente la demande de patience, parce que Dieu ne répond pas aussitôt, ni demain, ni peut-être pendant une semaine ou un mois, que fait-il? Il forme en nous les valeurs morales de son Fils, une foi qui sera parfaite et triomphante, une patience également parfaite et triomphante, une consécration parfaite et triomphante, une obéissance qui n'a d'autre fondement que celui qu'il nous demande. Alors la prière est en vérité une école d'éducation, il faut bien le dire. Ces vertus sont acquises par l'exercice. Souvenons-nous que Dieu a un but en vue et que notre participation avec Christ à laquelle nous sommes appelés sera morale à la fin. Elle sera liée au caractère, ce qui explique la volonté relative de Dieu. Le péché n'est pas la volonté absolue de Dieu, mais il l'a permis. Le péché qui nous enveloppe si facilement, selon Hébreux chapitre 12, verset 1, ce n'est pas, on l'a compris, la volonté de Dieu, mais il l'a permis. Il le permet, et c'est donc sa volonté relative qui signifie sa permission. Il le permet, évidemment, pour un but. Il le permet pour un but. Et lorsque ce but sera atteint, la souffrance pourra disparaître. Ou si Dieu permet qu'elle subsiste, eh bien ce sera peut-être pour nous garder pour nous garder dans une position, mais lorsque la position pour laquelle il l'a permise sera atteinte, eh bien la volonté relative de Dieu sera absolument accomplie. Et cela s'applique donc à toute chose. Les circonstances, beaucoup des circonstances que nous rencontrons dans notre vie ne sont pas la volonté absolue de Dieu. Par exemple, une chute n'est pas la volonté absolue de Dieu. Mais puisque rien ne peut arriver à l'un de ses enfants sans sa permission, c'est sa volonté relative. Donc, lorsque nous comprenons tout cela, nous avons à chercher dans la prière ce que Dieu veut bien nous apprendre par les choses que nous traversons. C'est ça, c'est notre éducation. Nous devons arriver à comprendre ce que Dieu veut nous enseigner par cet exercice profond et cette souffrance du cœur que nous traversons pour notre éducation. Nous sommes arrivés maintenant à un degré plus élevé de vie. La seconde chose dont la prière importune, c'est la connaissance. Nous avons un peu anticipé dans ce que nous avons dit, la connaissance, la vie morale en premier lieu, la connaissance en second lieu. Quelques-uns de ceux qui se donnent entièrement entre les mains de Dieu sont souvent des expériences étranges de contradictions apparentes et nous pouvons avoir le sentiment très clair de ce que Dieu nous demande et l'impossibilité, absolue de le faire. Je le répète, nous pouvons avoir le sentiment très clair de ce que Dieu nous demande et l'impossibilité absolue de le faire. Donc, aucun chemin n'est ouvert, car toutes les portes sont fermées, délai et encore un délai. Que cherche donc notre Seigneur ? Il veut nous exercer à la prière. C'est le premier effet, ou ce devrait être le premier effet, c'est de nous faire entrer entièrement dans l'importunité. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous pouvons essayer de tout abandonner au Seigneur, mais nous voyons revenir à notre intercession encore et encore et encore. Et le Seigneur ne nous permet pas de rester indifférents. Oui, il désire une connaissance et une intelligence encore plus grande de notre part. Tout cela est donc lié à toutes les voies du Seigneur à notre égard. Et une chose que nous avons faite dans notre expérience, mais qu'il nous sera bon d'avoir plus clairement défini dans notre pensée, c'est que nous ne pouvons pas apprendre les principes divins, ni obtenir la connaissance spirituelle uniquement dans les livres, ni par la lecture. Nous ne pouvons les connaître que par la formation intérieure. Il faut premièrement la conception, une chose intérieure, il doit donc y avoir la formation en nous, et ensuite le travail intérieur qui conduit à la naissance. C'est l'opération de la vie. Nous ne saurions apprendre les principes divins et spirituels dans des manuels uniquement. Nous ne pouvons apprendre ce que contient la Sainte Bible que par une expérience vivante. La Sainte Bible n'est pas un gramophone, elle est un microphone. Quelle est donc la différence? Quelle est la différence? Eh bien, un gramophone exprime ce qui est renfermé en lui-même. Or, un microphone transmet quelque chose de l'au-delà. La Sainte Bible n'est donc pas un gramophone. Il nous est donné, par notre lecture de la Sainte Parole, quelque chose de l'au-delà. Tout cela pour notre intelligence. Nous pouvons donc avoir de la Sainte Bible une connaissance de gramophone, c'est-à-dire nous pouvons connaître la Bible de part en part, comme un livre, en avoir les analyses et les diagrammes les plus merveilleux, tout en restant encore pour tous les buts pratiques et spirituels de manière vivante, très peu, au fond, utile au Seigneur. Mais par contre, si nous possédons une compréhension de microphone de la Sainte Parole, là, nous avons les Saintes Écritures bien plus, beaucoup plus, car si Dieu nous parle par les Saintes Écritures, nous les recevons de manière absolument vivante. Et lorsque nous étions enfants, oui, là, nous avons tous appris au bord de la mer, nous avons donc appris par des coquillages, rappelez-vous sûrement, et nous les avons, ces coquillages, appuyés à notre oreille pour entendre le bruit de la mer. Nous avons rapporté chez nous, dans la ville, les coquillages et nous les avons mis à notre oreille. Nous avons toujours entendu le bruit de la mer. Est-ce vraiment vrai? C'est une illusion enfantine. Lorsque nous sommes enfants, nous avons apporté les coquillages dans la ville et nous croyons entendre le bruit de la mer qui est tout accumulé dans ce coquillage et que nous n'avons que à le mettre à l'oreille pour l'entendre. Ça, c'est la pensée de l'enfant au sujet de ce coquillage. Mais ce n'est rien de pareil, car ce coquillage ne fait que agir comme en quelque sorte un tuyau qui collecte les vibrations des sons atmosphériques et qui nous permet d'entendre ce que nous n'entendrions pas avec l'oreille naturelle. Le coquillage n'est rien, il ne fait que transmettre une chose plus grande. Donc, si nous nous approchons de la Sainte Parole de Dieu comme d'un simple livre, elle sera semblable à ce coquillage. Mais, si nous sommes dans l'esprit, elle nous apportera la pensée du Seigneur, car sans l'opération du Saint-Esprit à travers elle, elle sera pour nous comme tout autre livre, et nous pouvons la lire sans revoir ou sans recevoir plus de lumière, oui, c'est possible, que de tout autre livre. Et ce qui nous est donc nécessaire, c'est bien entendu la connaissance spirituelle. Il y a tant de personnes qui considèrent la Sainte Bible comme simplement, on peut dire, un simple manuel. C'est une grande erreur. Ce que nous affirmons, c'est que nous ne pouvons pas connaître les principes divins, ni obtenir de connaissances spirituelles dans les livres, ni par nos lectures. Nous ne pouvons connaître les choses de Dieu que dans la ligne de la vie, dans l'expérience, par un caractère vivant qui est formé en nous, c'est-à-dire par une vie qui se développe en nous et qui cause en nous un travail par lequel elle s'accomplira. Et c'est ainsi que nous arrivons à la connaissance spirituelle. Elle nous est donnée dans la prière importune. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous demande et rend nécessaire la prière importune. Nous arrivons donc à connaître par le travail de notre âme devant Dieu, par une longue expérience d'angoisse, nous arrivons à connaître les choses spirituelles. La hâte, très souvent, à la fin, cela ne signifie qu'une perte de temps et nous devons revenir, oui, revenir tout en arrière parfois, pour avoir réellement une connaissance plus pleine, parce que nous avions été trop pressés. Ça m'est aussi arrivé. Le Seigneur doit souvent ramener ses enfants en arrière et les lier de sorte qu'ils ne puissent pas agir. Il doit les garder durant une longue période dans un exercice profond en sa présence afin qu'ils apprennent ce qui est dans la pensée du Seigneur et qui est absolument indispensable. Mais que nous possédions la pensée du Seigneur avant d'agir, ou que nous devions revenir en arrière, eh bien le Seigneur n'a qu'une chose en vue, c'est que nous la connaissions. Ainsi, les délais du Sauveur, du Seigneur, sont les moments où le Seigneur nous exerce à la prière importune pour arriver à la connaissance spirituelle. Il y a, troisièmement, l'aspect collectif. En effet, il y a donc l'aspect collectif. Rappelons-nous, Néhémie a parlé de la prière qu'il faisait monter à Dieu jour et nuit. Mais cette prière était relative car elle était liée au peuple de Dieu. Les prières de Christ avaient le même caractère. Il ne priait pas simplement pour lui-même, mais sa prière était liée au sien. En effet, il priait jour et nuit pour eux. Les prières de l'apôtre Paul avaient également le même caractère. Nous ne cessons de prier pour nous. Colossiens chapitre 1, verset 9, c'est ce que dit l'apôtre, nous ne cessons de prier pour nous. Et qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les saints. Selon 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, il y a de la persistance, il y a de l'importunité, mais c'est une prière collective, donc relative. La femme qui est dans notre pensée, lorsque nous employons ces termes d'importune, ou d'importunité qui est devant le juge inique, rappelez-vous. C'est une femme qui représente l'Église. Et Christ implique cela en disant, et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Saint Luc chapitre 18, verset 7. Je répète, et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Que signifie faire justice aux saints contre leurs adversaires? Oui, c'est la grande victoire collective à la fin. C'est le moment suprême où l'accusateur des frères sera enfin vaincu. Oui, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit sera vaincu. Le grand juge fera justice de l'accusateur, celui qui harassait l'Église, et ceci à son aspect collectif. L'incident de l'ami à minuit, rappelez-vous, comme nous l'avons appelé, c'est encore une chose relative, ce n'est pas simplement une affaire personnelle. Comme l'ami continuait, l'autre homme se leva, ce fut son importunité qui a fait sortir l'homme de son lit, mais c'était en relation avec d'autres. Tout cela représente un plan, un projet, une campagne dans laquelle sont engagés tous les enfants de Dieu, et Dieu ne nous amène pas simplement en tant qu'individus à une place, mais il nous fait arriver avec tout son peuple, jusqu'à ce que nous parvenions tous, est-il dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. Et notre travail, notre éducation morale, ces contradictions et ces délais qui nous retiennent et nous poussent à la prière, agissent donc en nous, en relation avec le corps tout entier, et deviennent donc une expérience relative. Ils ont donc pour but tout le corps de Christ. Le Seigneur cherche à avoir son corps tout entier, parfait, et chaque partie doit donc exercer une action en relation avec l'ensemble. Un jour, l'effet accumulé de nos épreuves, de nos difficultés, de nos perplexités, se verra dans le corps tout entier devenu parfait, et nous comprendrons que lorsque nous souffrions, nous ne souffrions pas isolément, que nos souffrances n'étaient pas détachées, mais qu'elles étaient collectives, elles étaient reliées et elles étaient une part d'un tout. Ça change tout. Et elles contribuaient donc à un dessein beaucoup plus grand que nos propres intérêts personnels. Il faut que nous permettions au dessein de Dieu de donner une couleur à nos expériences personnelles. Les épreuves que nous traversons ne signifient pas que le Seigneur nous ait désignés à souffrir tout seul, mais le corps tout entier est son but, et nous souffrons en relation avec le corps. Tout cela pour l'amour du corps. Nous accomplissons ainsi ce qui manque aux souffrances de Christ. Les souffrances sont donc relatives et nous le voyons. Elles ne sont pas la volonté absolue de Dieu, pas du tout. Mais ce sont sa volonté relative dans ce sens plus complet qu'elle contribue à un dessein plus vaste de Dieu. Lorsque le dessein plus vaste sera atteint, eh bien la volonté relative de Dieu qui permet les souffrances cessera et il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance. Il est donc nécessaire que nous voyons le plan de Dieu tout entier pour découvrir que la persistance et l'importunité attendue et demandée de nous affectent donc ces trois choses. Donc, la vie morale personnelle, cette vie morale personnelle du croyant, selon le modèle céleste, c'est l'accroissement de la connaissance spirituelle qui sont à la base des délais qui nous appellent à la prière importune. Et nous devons donc apprendre quelque chose que nous ne connaissions pas encore. Une question très importante, cet exercice, ce travail, eh bien tout cela est lié au dessein tout entier de Dieu et ont donc leur place en relation avec tous les saints. Jamais la volonté de Dieu ne nous force à faire quelque chose. Cela est étranger à la pensée de l'importunité. L'importunité, bien qu'elle semble être l'opposé, c'est notre coopération avec Dieu. Donc, nous pouvons penser qu'elle aura pour effet de contraindre ainsi Dieu, de persuader ainsi Dieu et qu'il agisse, que Dieu va agir. Mais Dieu ne nous attire pas dans cette voie que pour nous avoir en coopération avec sa volonté. C'est à cela que nous pensions en disant que certaines choses devraient être vaincues en nous et que nous devrions triompher de toutes sortes d'éléments de la vieille création, c'est-à-dire nos désirs, nos sentiments, nos préférences, nos jugements, nos conceptions, nos propres pensées. Toutes ces choses doivent être donc surmontées. Et dans l'exercice et l'action et le travail de la prière, nous entrons en coopération avec Dieu et nous finissons par découvrir que notre pensée était de chercher à persuader le Seigneur de faire certaines choses, alors que le Seigneur nous amenait à la place où il est libre de faire ce qu'il désire. Le Seigneur a des voies étranges, mais il est toujours justifié pour finir, et la sagesse est justifiée par ses enfants. Chers amis, nous arrivons donc à la fin de notre étude et je voudrais terminer par la prière. Je vous dirai les paroles d'un très ancien cantique qui dit ceci. Rien, ô Jésus, que ta grâce, rien que ton sang précieux, qui seul mes péchés efface, ne me rend saint, juste et heureux. Ne me dites autre chose, sinon qu'il est mon sauveur, qu'il est l'auteur, la source et la cause de mon éternel bonheur. Prions. Seigneur, nous avons imploré ta bénédiction dès le commencement de cette journée, ô notre Père. C'est à toi que nous en voulons remettre les dernières heures. Tiens-toi près de nous pendant ce moment même et parle à nos cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous désirons t'offrir nos esprits et nos corps en sacrifice vivant et saint. Mais nous sentons bien souvent que nous nous laissons détourner de ton service par mille soins ou mille influences diverses. Garde notre âme en ta présence. Remplis-les tellement de toi-même, ô notre Sauveur, de la joie de ton salut, d'une sainte et active reconnaissance, et qu'il n'y ait plus place en nous pour d'autres pensées ou d'autres préoccupations. Oh, si nous comprenions toujours ce que tu es et ce que tu as fait pour nous, si à chaque heure qui s'écoule, nous étions pénétrés de cette pensée que cette heure-là même, dans ta grâce, sans ton amour, serait pour nous une heure de ténèbres, de péché et de condamnation. Dieu fidèle, rends-nous fidèles. Nous nous écrions avec le psalmiste que tes bienfaits sont si nombreux que nous ne les pouvons réciter et dire. Nous te bénissons de ce que, si nos péchés sont dépassés en nombre les cheveux de notre tête, qu'ils ont dépassé même en nombre les cheveux de notre tête, eh bien tes grâces, Seigneur, sont beaucoup plus nombreuses encore, et de ce que tu es plus puissant pour nous sauver que l'ennemi de nos âmes pour nous perdre. Rends-nous donc notre foi inébranlable et garde-nous dans ta paix pour l'amour de notre Seigneur. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir très chers amis.